Vous êtes sur RTL.
Qui a été envoyé à Paris après l'élection de Mitterrand, quand les États-Unis s'inquiétaient de voir des communistes entrer au gouvernement. Il a finalement été battu en 1992 par Clinton, et en partant, il avait laissé sur le bureau ovale une lettre magnifique pour le féliciter, lui souhaiter du courage. Il avait un immense respect pour cette fonction suprême, comme il le racontait sur RTL dans le journal Inattendu en 2005 à Christophe de Croix.
Je ne dirais pas que j'étais complètement écrasé, en fait, c'est pas ça, par le sentiment, mais plutôt béni, en fait, par la chance d'avoir l'opportunité de servir mon pays au plus haut niveau. Et j'avais toujours ce sentiment, en effet, de gratitude. Lorsque je suis parti, j'ai toujours un petit peu ce sentiment d'admiration, de respect extraordinaire pour l'institution qu'est la présidence des États-Unis.
Son fils aîné a ensuite été élu président à deux reprises. Son épouse Barbara a été décédée au printemps.
Merci Philippe Corbet, RTL aux États-Unis. On y reviendra évidemment sur cette disparition. George Bush, 94 ans. Et vous avez déjà toutes les informations sur notre site rtl.fr. En France, c'est donc ce samedi l'acte 3 de la mobilisation des Gilets jaunes au lendemain d'une réunion à Matignon qui a tourné au fiasco. Ils n'étaient que deux hier après-midi à avoir fait le déplacement jusque dans le bureau d'Édouard Philippe. Le premier Gilet jaune est resté seulement quelques minutes. Le second, plus d'une heure. Un débat qualifié d'utile par le chef du gouvernement. Toujours est-il que le dialogue demeure au point mort et que tous les regards seront braqués ce samedi sur les manifestations et les rassemblements programmés en région, mais surtout sur les Champs-Élysées. Après le chaos de la semaine dernière, les autorités déploient les grands moyens en termes de sécurisation. Nous rejoignons en direct Gauthier Delon-Bugard pour une première photo ce matin. Les Champs-Élysées sont fermées. Gauthier, à la circulation depuis une heure maintenant.
Oui, chaque accès aux Champs-Élysées, chaque rue adjacente est bloqué par des camions de CRS, de gendarmerie, avec des centaines de gyrophares bleus allumés en permanence de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde. Au niveau du rond-point des Champs-Élysées, avenue Montaigne, ce sont même de grandes palissades qui bloquent l'accès. Et puis nous avons dû franchir un des nombreux points de filtrage pour accéder à l'avenue. Les forces de l'ordre, qui sont près de 5000 au total aujourd'hui dans la capitale, vérifient l'identité de chacun, fouillent les sacs pour éviter toute intrusion de projectiles ou d'objets pouvant servir d'armes. Les terrasses des cafés ont été vidées de leur mobilier. Les entreprises de travaux publics ont retiré les engins ou encore les barrières qui avaient servi la semaine dernière à ériger des barricades sur les pavés de l'avenue. Pour l'instant, tout est très calme. Seuls les moteurs des camions de nettoyage animent l'artère. Nous venons de croiser, il y a quelques minutes, une petite dizaine de manifestants. Ils n'ont pas encore sorti les gilets jaunes qui sont restés dans le sac à dos. On attend d'être plus nombreux d'ici style avant de nous faire entendre.
Gauthier Delon-Bugard sur les Champs-Élysées pour RTL. La semaine dernière, 103 personnes avaient été interpellées à Paris lors d'une journée catastrophique sur le plan de l'image. Et pour les commerçants, à un mois de Noël, la question est de savoir combien seront-ils ce 1er décembre, car si beaucoup entendent manifester chez eux, dans leur ville, beaucoup ont programmé de rejoindre la capitale. Direction donc le nord de la France, Maxime Wolf, plusieurs bus vont prendre la route.
On va faire le gasoil pour être prêt. Ils sont partout le matin, donc on va être tranquille.
Les bus de Thibault de l'association Robin des bus sont prêts, les réservoirs pleins, pour emmener les gilets jaunes nordistes à Paris aujourd'hui.
Ça a très bien marché au début, il y a eu un petit creux. C'est vrai qu'il reste encore quelques places, mais pas beaucoup. On a un quart et demi au départ de Lille, un quart complet au départ de Lens, et on a la moitié d'un quart au départ d'Arras. Beaucoup de retraités, il n'y a pas de très jeunes. Plus jeunes, on va dire, c'est une trentaine d'années, des couples qui se rendent compte que c'est galère.
Rachida, 52 ans, infirmière, fera partie du voyage, car par rapport à samedi dernier, elle a un goût d'inachevé.
J'ai été très déçue de la répression, surtout. En fait, j'ai eu le sentiment qu'on nous a empêchés de manifester. Et puis nous, on était venus en pacifique. Mais bon, ça ne m'empêche pas d'avoir l'envie de retourner. Quand on se sent privé de droits, on a encore plus envie d'y aller, quoi. Je vais essayer de faire un petit sacrifice financier pour y aller, parce qu'on fera partie de l'histoire et on écrit une page. Hein. Ça s'est jamais vu sur la 5e République.
Et pour éviter la panique du week-end dernier, l'association a même prévu un petit guide de survie du manifestant. Prendre de l'eau, des mouchoirs, des pastilles pour la gorge, ou encore ne pas approcher et filmer les casseurs, par exemple.
Maxime Wolf, reportage RTL dans le nord de la France. Manifestation populaire, donc pas question de relâcher la pression. L'Élysée fait savoir qu'Emmanuel Macron, en déplacement en Argentine pour le G20, se tient informé de la situation. François Hollande, qui a critiqué hier son successeur sur sa gestion de la crise, doit discuter avec des gilets jaunes ce samedi dans le Tarn. Les députés communistes et ceux de la France insoumise ont l'intention de déposer une motion de censure contre le gouvernement au vu de la gestion catastrophique, selon eux, du dossier. Et Jean-Luc Mélenchon propose même des pistes pour sortir de l'impasse.
Le gouvernement a le choix entre trois choses. Espérer que ça pourrisse sur pied. C'est plutôt l'option qui est en cours en ce moment. Et puis, des bonnes paroles de temps à autre. Deuxième option, être raisonnable. C'est-à-dire dire, je renonce aux surtaxes sur les carburants. Et je vais équilibrer le budget en rétablissant, par exemple, l'impôt sur la fortune, vu que c'est la même somme. Et puis, la troisième, c'est de dire, ben, on est dans une démocratie, dirait le président, j'estime que c'est ça qu'il faut faire, il y a plein de gens qui veulent pas, donc ben, que les urnes tranchent. Hein, et ça, dans un autre pays, il y aurait une dissolution. Là, on ne comprend pas très bien ce qu'espère le pouvoir, sinon l'usure. Plus les jours passent, plus le niveau de prise de conscience et de revendication monte.
Jean-Luc Mélenchon au micro RTL d'Hugo Hamelin, le leader de la France insoumise qui hésitait encore hier soir entre manifester à Marseille, sa ville d'adoption, ou venir sur les Champs-Élysées pour soutenir les Gilets jaunes. Un samedi de colère, des Gilets jaunes qui percutent un 1er décembre de mobilisation des associations de chômeurs. Tous les ans, depuis 1998, elles se mobilisent chaque premier samedi de décembre. Des défilés dans les grandes villes avec le soutien de certains syndicats, dont la CGT, Rassemblement Parisien à 14h, place de la République. Derrière un slogan, la précarité, ce n'est pas un métier. La suite de RTL Matin, c'est dans un instant. Vous restez bien avec nous, avec l'impensable à Calais. Une jeune femme violée et torturée pendant 2 mois dans une maison.
Stéphane Carpentier,
RTL Matin. Le grand jury RTL Le Figaro LCI, présenté par Benjamin Sportouche.
Le président du Sénat, Gérard Larcher, est l'invité du grand jury. Deuxième personnage de l'État, Gérard Larcher s'oppose à Emmanuel Macron. Le Sénat vient de voter contre l'augmentation des taxes sur le carburant. Alors, quelle est la prochaine étape? Est-ce un référendum sur la politique fiscale du gouvernement, comme le réclame Laurent Wauquiez? Et que propose concrètement la droite pour répondre aux Gilets jaunes? En 2017, elle proposait l'augmentation de 2 points de la TVA. Gérard Larcher reprend-il cette idée? J'attends aussi toutes vos questions sur RTL.fr.
Le grand jury de Gérard Larcher, présenté par Benjamin Sportouche, c'est demain à partir de 12h sur RTL.
Moi, je suis moi-même au fil et je fais tout moi-même. Le sapin, c'est moi. Faut dire que les aiguilles, c'est toute ma vie. L'année dernière, j'ai fait 4e au championnat de France de tricot de vitesse. Non, Noël, c'est moi. Et Gamme Vert.
Eh oui, préparer Noël avec Gamme Vert, ça change tout. Et jusqu'au 1er décembre, Gamme Vert vous propose le sapin Nordman qualité extra 100-125 cm à 14,95€ seulement.
Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie.
Conditions et magasins participants sur gammevert.fr.
Pendant ce temps, chez Renault...
Faites durer le plaisir de conduire avec Renault Zoé et ses 300 km d'autonomie. Jusqu'au 31 décembre, profitez de Zoé à 99€ par mois et réservez votre essai au 30-23. Zoé City en location longue durée 37 mois, 22 500 km, premier loyer de 2 000€ plus 36 loyers de 99€. Si Accordiac, sous condition de reprise hors location batterie. Loyer batterie à 39€ hors mois de livraison. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Voir Renault.fr.
RTL Matin, 7h09, suite du journal Stéphane Carpentier.
L'actualité, c'est également un adolescent de 15 ans interpellé cette semaine dans le Val d'Oise. Il est soupçonné d'avoir violé 2 jeunes filles sous la menace d'un couteau aux abords d'un lycée à Sarcelles. Le jeune homme a également essayé d'en agresser 3 autres. À Calais, on est au-delà de l'horreur, je vous le disais. 2 hommes et une femme ont été mis en examen hier soir pour viol avec torture et acte de barbarie commis sur une jeune fille de 18 ans séquestrée dans une maison. Son calvaire, Emmanuel Bouin, a duré de longues semaines.
Cette jeune dunkerquoise de 18 ans était venue chercher du réconfort chez des amis après une dispute familiale. Elle a vécu l'enfer pendant 2 mois. Séquestrée, torturée et violée jusqu'à ce mercredi matin où elle décide de fuir ses bourreaux en sautant du 1er étage de cette maison du centre-ville de Calais. Tanguy est primeur, il la voyait 1 à 2 fois par mois passer devant son magasin.
Habillée en survêtement, avec une veste, des baskets simplement quoi. Crâne rasé, plein de coups, des bleus. Oui, on voyait qu'elle était triste, toute recroquevillée sur elle-même. On voyait que ça n'allait pas quoi. Pour une fille de 18 ans, on n'a pas autant de bleus sur soi ou dans un état comme ça quoi.
3 personnes ont été interpellées, placées en garde à vue. Ils sont passés aux aveux hier après-midi. Il s'agit de 2 frères âgés d'une 20aine d'années et d'une mère de famille de 40 ans. Les 3 tortionnaires encourent la réclusion criminelle à perpétuité.
Emmanuel Boin, RTL, dans le nord de la France. Au Japon, pas de changement pour Carlos Ghosn. Le tribunal de Tokyo a validé hier la garde à vue du tout-puissant de Renault. 10 jours supplémentaires, soit jusqu'au 10 décembre. Il a été arrêté le 19 novembre dernier sur des soupçons de dissimulation de revenus. Le président Macron s'est entretenu au G20 sur le sujet hier avec le Premier ministre japonais. Sujet sensible, le président français qui a demandé que l'alliance Renault-Nissan soit préservée, de même que la stabilité du groupe automobile. Le football et la belle victoire hier soir des Verts contre Nantes en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Saint-Etienne l'a emporté 3-0, des Verts provisoirement 5e du classement. En attendant la suite, à partir de cet après-midi, 17h, une affiche prometteuse entre Lille et Lyon. Et puis à 20h, 4 rencontres à suivre dans le multiplex RTL L'Équipe. Au programme notamment Monaco, Montpellier. Des Monégasques seulement 19e qui restent sur une victoire le week-end dernier. La première d'ailleurs de Thierry Henry, Michael Lefebvre dans le rôle d'entraîneur.
Oui, si cette victoire tant attendue à Caen la semaine dernière n'a pas eu le mérite de détendre un Thierry Henry toujours crispé en conférence de presse, elle a au moins soulagé les joueurs de la Principauté.
On a pris 3 points, un peu plus de sérénité dans la semaine, même si c'est vrai qu'entre les deux matchs, tu joues à l'Atlético de Madrid et tu perds. Donc voilà, ça a ramené un peu plus de sérénité.
De la sérénité et un objectif clair, martelé tout au long de la semaine par l'entraîneur monégasque, il faut enchaîner face à Montpellier.
Oui, j'ai dit avant le match de Madrid que notre bataille, c'est Montpellier, donc samedi. Essayer d'enchaîner une autre victoire, avoir deux d'affilée, ça serait pas mal, et même bien, pas seulement pas mal. Essayer aussi de gagner ce premier match à la maison de la saison, c'est pas arrivé depuis un petit moment. Donc voilà, essayer d'enchaîner après cette victoire à Caen.
Alors que l'infirmerie ne désemplit toujours pas, 13 noms ont été couchés cette semaine sur le bulletin médical. L'AS Monaco doit donc confirmer l'éclaircie entrevue en Normandie, face tout de même à un adversaire d'un tout autre calibre cette fois.
Michael Lefebvre en Ligue 2, 16e journée disputée hier soir. Brest a rejoint Metz aux avant-postes après un succès 2-0 contre Ajaccio, mais les Messins jouent cet après-midi à Grenoble. Parmi les autres résultats, la victoire de Nancy à Orléans 2-1 et le nul de partout entre Lorient et Lens. Vous avez les résultats et les classements évidemment sur notre site rtl.fr. On salue Claudine qui nous écoute fidèlement, qui est ravie de nous retrouver en ce samedi matin. Idem pour Françoise. 6 degrés à Nancy où il y a marché de Noël tout le week-end. Et puis Jean-Luc est là, il est connecté. Un régal de vous retrouver dans la joie et la bonne humeur. 5 degrés à Châteauroux.